Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 8 janvier 2025. Les réactions se multiplient après la menace du président élu des États-Unis, Donald Trump, de recourir à la coercition économique pour annexer le Canada. En Californie, plus de 30 000 personnes ont évacué leur domicile dans les environs de Los Angeles en raison de violents feux de forêt. Au Cameroun, le gouvernement réagit au tir groupé des évêques contre la candidature de Paul Biya. Au Soudan, plus de 500 viols ont été commis par les paramilitaires depuis le début de la guerre, selon le gouvernement. Les populations de la région des Grands Lacs dénoncent l'impact du conflit rwando-congolais sur le commerce transfrontalier.
Le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale par rapport aux autres communautés économiques et régionales sur le continent est le plus faible. Donc vous comprenez qu'effectivement il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra-régionales.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Les pompiers continuent de lutter ce mercredi contre un violent feu de forêt dans un quartier huppé qui surplombe Los Angeles sur la côte ouest des États-Unis, forçant des milliers de personnes à fuir. Les détails avec Rosine Monizero.
Le feu s'est déclaré mardi en fin de matinée dans le quartier de Pacific Palisades, peuplé de villas à plusieurs millions de dollars où habitent des célébrités hollywoodiennes dans les montagnes au nord-ouest de la ville. Des habitants paniqués ont dû abandonner leur véhicule sur l'une des seules routes entrant et sortant de la zone, fuyant à pied le feu qui a déjà ravagé près de 1200 hectares. Des vents de la puissance d'un ouragan posent un danger mortel, selon les autorités. Plus de 1400 pompiers se battent contre les flammes et des centaines sont en route, a affirmé le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. La tempête a perturbé la visite du président Joe Biden qui était en Californie mardi. Le président a immédiatement approuvé des aides fédérales pour la deuxième ville des États-Unis. Donald Trump, qui doit succéder à M. Biden dans quelques jours à la Maison-Blanche, a menacé en septembre de couper l'aide fédérale habituellement reçue par la Californie pour lutter contre les feux de forêt.
Au moins 2 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été grièvement blessées dans ces incendies à Los Angeles, ont annoncé les pompiers. Les visées expansionnistes du président élu américain suscitent une certaine incompréhension chez les dirigeants européens. Réaction ce mercredi du chancelier allemand Olaf Scholz après les propos de Donald Trump sur le Groenland ou le canal de Panama. Jacques Aristide.
Le principe de l'inviolabilité des frontières s'applique à tout pays, a déclaré Olaf Scholz après s'être entretenu aujourd'hui avec plusieurs de ses homologues dans l'Union européenne. L'UE qui a qualifié ces menaces d'annexion d'extrêmement hypothétiques, tout en soulignant son attachement à la souveraineté des États. Les frontières ne peuvent pas être déplacées par la force, a encore prévenu le gouvernement allemand. Lors d'une conférence de presse hier en Floride, le président élu des États-Unis a répété ses ambitions d'annexer le canal de Panama et le Groenland, territoire autonome du Danemark. Donald Trump s'est refusé à exclure le recours à la force, entraînant des répliques fermes à des pays concernés. La souveraineté du Panama sur ce canal n'est pas négociable, lui a répondu Javier Martinez-Acha, le ministre des Affaires étrangères de ce pays d'Amérique centrale. Le Groenland est au Groenlandais, a insisté de son côté la première ministre danoise, Mette Frederiksen, à l'arrivée hier de Donald Trump Jr. au Groenland pour une visite privée. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a elle affirmé que le Canada ne reculerait jamais face aux menaces, tandis que Justin Trudeau a ajouté « Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis ». La Charte des Nations Unies pose très clairement la nécessité pour tout État membre de respecter l'intégrité territoriale des autres membres, a également réagi le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Donald Trump a aussi indiqué qu'à son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, les États-Unis changeraient le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique.
La journaliste italienne Cecilia Sala, arrêtée le 19 décembre en Iran pour avoir enfreint les lois de la République islamique, a été libérée. Elle est rentrée ce mercredi après-midi en Italie. L'avion la rapatria a atterri en milieu d'après-midi à Rome, où elle a été accueillie par la première ministre Giorgia Meloni et le ministre ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, l'ONG Reporters sans frontières a de son côté exprimé son immense soulagement. Le préfet de Mayotte a estimé aujourd'hui qu'il pourrait y avoir une quarantaine de personnes disparues sans dépouilles mortuaires à la suite du passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel, outre les 39 morts et les milliers de blessés. Dans les premières heures après le passage du cyclone le 14 décembre, il avait supposé qu'il y aurait certainement plusieurs centaines, peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers de morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, la haute cour kenyane a ordonné à l'inspecteur général de la police, Douglas Kanja, de s'expliquer sur une vague d'enlèvement de jeunes critiques du pouvoir après la disparition de 6 hommes lors des fêtes de Noël. 5 d'entre eux ont été retrouvés, mais des questions persistent sur leurs ravisseurs et leur détention. Le juge a menacé de poursuites pour outrage si M. Kanja ne se présente pas le 27 janvier. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de disparition lié aux manifestations antigouvernementales avec 82 cas d'enlèvement recensé par la Commission nationale des droits de l'homme. Au Soudan, plus de 500 femmes ont été violées par des paramilitaires des FSR depuis le début de la guerre contre l'armée en 2023, a déclaré hier une responsable gouvernementale. Mais ces chiffres pourraient être plus élevés. Nani Talani nous en dit plus.
Soulaïma Ishak Al-Khalifa, chef de l'unité gouvernementale de lutte contre la violence envers les femmes et les enfants, a déclaré que les autorités ont recensé 554 cas de viol commis par les paramilitaires des FSR entre avril 2023 et décembre 2024. Ces chiffres ne représentent qu'une fraction, environ 2%, selon elle, du nombre réel d'attaques, car, explique-t-elle, certaines régions sont complètement isolées, les communications ont été perturbées. De plus, plusieurs femmes évitent de signaler les violences sexuelles par peur de la stigmatisation sociale. Madame Khalifa a également mentionné que les autorités avaient autorisé des dizaines d'avortements entre septembre 2023 et avril 2024 dans des régions comme Khartoum, le Kordofan et le Darfour, après avoir obtenu l'approbation légale des procureurs. De plus, des avortements supplémentaires ont été réalisés dans l'état de Kassala pour des femmes déplacées d'Al-Jazeera, où des attaques des FSR ont été signalées ces derniers mois. Au Soudan, les avortements sont permis en cas de viol ou lorsque la grossesse représente un danger pour la santé de la mère.
En RDC, quelques centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui contre l'exploitation minière illégale dans l'est du pays, notamment par des entreprises chinoises. Les manifestants ont dénoncé le manque de retombées pour les communautés locales. Cette mobilisation suit l'arrestation récente de 3 Chinois en possession de lingots d'or et des sommes importantes, selon le gouverneur du Sud Kivu. Le gouvernement camerounais a réagi mardi soir dans un communiqué aux déclarations récentes de certains évêques de l'Église catholique romaine concernant l'élection présidentielle prévue en 2025. Le point avec Eric Manirakiza.
Tout en soulignant le droit à la libre expression, le gouvernement déplore les prises d'opposition excessives fondées sur des interprétations erronées des propos du président Paul Biya. Le communiqué rappelle que M. Biya, élu pour 7 ans, reste pleinement engagé à assumer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat. À ce sujet, le gouvernement a réaffirmé que la question d'une éventuelle candidature du président sera clarifiée en temps voulu par ce dernier, rendant toute spéculation inutile. Le gouvernement insiste également sur le fait que le Cameroun est un État laïque où la coexistence harmonieuse entre les religions et les autorités publiques est essentielle. Il précise que les positions exprimées par certains religieux ne sauraient affecter les relations entre l'État et l'Église, ni influencer le choix souverain des citoyens camerounais. Ce mercredi, le nonce apostolique au Cameroun, l'archevêque José Avelino Betancourt, a été reçu par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Le gouvernement invite enfin les futurs candidats à la présidentielle à se préparer dans le respect des principes démocratiques, tout en garantissant un climat électoral pacifique, transparent et serein.
L'Égypte a dévoilé ce mercredi de nouvelles découvertes archéologiques, dont des tombes de hauts fonctionnaires vieilles de 4000 ans et des œuvres d'art de l'époque de la reine Hatshepsut dans une ancienne nécropole de la célèbre ville de Luxor. Les découvertes couvrent la 15e dynastie jusqu'à la puissante 18e dynastie qui comptait des pharaons comme la reine Hatshepsut et le roi Toutankhamon. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nanik Talani.
Au Sénégal, les opérateurs privés ont collecté 3 998 tonnes d'arachides dans la région de Kaffrine en un mois pour la campagne de commercialisation qui a démarré le 5 décembre dernier, surpassant les 3 607 tonnes récoltées durant la campagne précédente en 2023-2024. Le directeur du développement rural, Mamadou Badiane, a indiqué que les graines collectées sont envoyées aux usines de Sonacos pour être transformées en huile. Cette année, l'Office togolais des impôts devrait percevoir 1 210 milliards de francs CFA de recettes, a révélé le patron de l'OTER. C'est plus que les 1 113 milliards de francs CFA de l'objectif fixé pour 2024, soit 8% de plus. Les fonds soutiendront le budget de l'État 2025 qui s'élève à 2397 milliards de francs CFA. Pour terminer, le producteur de pierres précieuses colorées, Diemfield, qui détient la mine de Kagem, demande aux autorités zambiennes de supprimer une taxe à l'exportation de 15% sur les émeraudes récemment réintroduites afin de ne pas nuire au secteur et de garantir l'attractivité des investissements. Diemfield détient 75% de la mine de Kagem, le reste est détenu par la Zambie.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Équipe de France, Deschamps s'arrêtera en 2026.
Didier Deschamps a justifié ce mercredi son départ de l'équipe de France au terme de son contrat en 2026, estimant dans un entretien diffusé sur TF1 avoir fait son temps. Le sélectionneur nommé à son poste après l'Euro 2012 en remplacement de Laurent Blanc rendra donc bel et bien son tablier après le Mondial 2026 organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais les Bleus ne sont pas encore qualifiés. En dépit d'une certaine usure du pouvoir, Deschamps partira en laissant derrière lui un palmarès hors norme en tant que sélectionneur avec un titre mondial en 2018 en Russie, la Ligue des Nations en 2021 et deux finales Euro 2016, Mondial 2022. Avec la fin programmée du long chapitre Deschamps, les spéculations vont désormais aller bon train concernant l'identité de son successeur. Un nom revient fatalement et naturellement à l'esprit, celui de Zinedine Zidane. Icône du football et du sport français, l'ancien numéro 10, âgé de 52 ans, n'a jamais caché qui rêvait de la fonction en réserve de la République depuis qu'il a terminé son deuxième passage au Real Madrid en 2021. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc des Merengues 2016-2017-2018 fait logiquement office de prétendant numéro 1.
Coupe du Roi, le Barça et le Real Madrid opposés au Betis Séville et au Celta Vigo en huitième.
Le FC Barcelone et le Real Madrid affronteront respectivement le Betis Séville et le Celta Vigo en huitième de finale de la Coupe du Roi selon le tirage au sort effectué mercredi. L'Athletic Bilbao, tenant du titre, recevra son voisin basque Osasuna, tandis que l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann se rendra à Elche Division 2, tombeur de Las Palmas, 4-0 au tour précédent. Le club amateur de Pontevedra, Division 4, défiera Getafe pour tenter de réaliser un nouvel exploit après avoir successivement éliminé les Levante Division 2, puis Villarreal et Mallorca, deux clubs de Liga. Les rencontres se dérouleront entre le 14 et le 16 janvier.
Dakar 2025 moto, Daniel Sanders remporte la quatrième étape.
Pour la quatrième fois en six jours de course au Rallye Dakar 2025, l'Australien Daniel Sanders s'est imposé ce mercredi dans la catégorie moto, quelques secondes devant l'Espagnol Tocha Chareina. Le Chilien José Ignacio Cornero Florimo et le Français Adrien Van Beveren ont terminé troisième et quatrième de la spéciale.
page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les populations de la région des Grands Lacs appellent à une solution pour résoudre les différends qui opposent ces pays car ils compromettent le commerce transfrontalier dont dépend une grande partie de la population vivant auprès des postes frontaliers. Elles souhaitent que les mesures restrictives du commerce soient levées pour que leurs échanges redeviennent fructueux. Le point avec notre correspondant à Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Au pont de passage dénommé Petite Barrière, entre la ville congolaise de Goma et la ville rwandaise de Rubavu, les acteurs du commerce transfrontalier traversent de part et d'autre. Et cependant, depuis 2 ans et demi, la République démocratique du Congo ferme la frontière à 15h au lieu de 22h comme c'était avant. Ces restrictions ont eu un impact négatif sur les échanges entre les deux pays.
Les produits alimentaires qui vont au Congo ont augmenté. Nous faisons du commerce, mais nous ne gagnons rien parce que lorsque nous y sommes et que l'heure de fermeture de la frontière nous rattrape, nous y passons la nuit.
Lorsqu'on utilisait le jeton, même celui qui transportait une faible quantité de marchandises pouvait gagner quelque chose. Mais maintenant, on peut ne pas avoir d'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité.
Lorsque l'heure de fermeture nous rattrape, on laisse là les marchandises et on rentre parce qu'il est impossible de poursuivre la vente. Et lorsqu'on y retourne le matin, on trouve que beaucoup de ces marchandises se sont détériorées.
Ces populations de la région des Grands Lacs qui rassemblent le Rwanda, le Burundi et la RDC souhaitent la levée de toutes les restrictions pour leur permettre d'exercer leurs activités.
Mon point de vue est que les gouvernements du Rwanda et de la République démocratique du Congo puissent se rencontrer et parler des bonnes relations devant exister entre les deux pays et que la situation ici à la frontière revienne à la normale pour l'intérêt et l'amélioration du bien-être des habitants de part et d'autre de la frontière.
Le commissaire en charge du marché commun de la communauté économique des États d'Afrique centrale, François Kanimba, considère que ces différends entre la communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL en sigle, s'intègrent déjà dans une précarité quasi générale des échanges entre les pays d'Afrique centrale.
Le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale par rapport aux autres communautés économiques régionales sur le continent est le plus faible. En termes d'indicateurs, ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale, alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra-régionaux.
Avant l'aggravation des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, consécutive au conflit à l'est de la RDC, on estimait à plus de 50 000 passages réguliers à la frontière rwando-congolaise de Goma-Rubavu, un flux limité aujourd'hui à seulement 15 000 passages par jour. Jean-Thomas Enemanifimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Nigeria, un jeune de l'état de Benue, dans le centre-nord du pays, Johnson Lubem, transforme des métaux récupérés en différents types de motos, y compris des motos électriques. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, a visité l'usine de Lubem. Reportage.
Depuis son petit atelier à Boko, sa ville natale dans l'état de Benue, au centre du Nigeria, le jeune Lubem Johnson travaille sur le prototype d'une moto entièrement fabriquée à partir de matériaux de récupération. Johnson Lubem, un mécanicien, réutilise des matériaux en fer abandonné pour construire des motos personnalisées, Lubem Custom Bike comme on les appelle ici, et qui n'ont rien à envier à celles qui sont importées. Johnson Lubem.
I was a motorcycle mechanic.
J'étais mécanicien de moto au bord de la route et je me suis découvert une vocation en 2012 en construisant des motos moi-même. Je réparais des motos, puis en 2012, j'ai découvert que oui, je suis doué parce que quand je fais mes motos avec des matériaux abandonnés, et j'ai construit des motos neuves, mes motos étaient toujours différentes.
L'objectif de son initiative est de proposer une alternative aux motos importées, mais aussi un moyen pour lui de donner aux ressortissants de sa ville et d'autres Nigérians la possibilité de s'offrir une moto qui coûte la moitié des autres sur le marché. Philomène Tchatcha, un des clients de Lubem.
I saw his good work on Facebook.
J'ai vu son travail pour la première fois sur Facebook. Je me suis dit, ok, laisse-moi faire sa connaissance. J'ai cherché son numéro. Je suis allé visiter son garage à New Road, qui se trouve également à Goko. Donc, en arrivant là-bas, il fabriquait des motos de très bonne qualité. Alors, je me suis dit, si je peux en avoir une, je serai très heureux.
Lubem produit en moyenne 5 à 10 motos par mois, mais cela est essentiellement dû au manque de financement. Au moins 7 jeunes de sa communauté qui souhaitent être comme lui travaillent présentement sous son autorité. C'est le cas de Alo Kato Kelvin.
I want to expand this.
Je ne veux pas me limiter ici. Je veux amener mes connaissances ailleurs parce que j'apprends avec lui. Un jour, je pourrai être ailleurs dans mon propre garage. Je vais aussi pouvoir employer plus de personnes pour leur apporter toujours les mêmes connaissances. Telles sont mes intentions.
That's my intention.
Comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria a montré un potentiel important dans les domaines de la technologie et de l'innovation. Cependant, divers facteurs comme le manque d'infrastructures, les contraintes liées à l'accès au financement et les défis réglementaires entravent l'esprit d'innovation des jeunes comme Lubem. Gilbert Tamba a beaucoup dans l'état de Benue pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon les Nations Unies, l'épidémie de VIH-Sida pourrait être enrayée d'ici à 2030, mais les patients doivent suivre leur traitement pour garder le virus sous contrôle et les jeux peuvent aider, comme vous allez le voir dans ce reportage de Zahi Kassim depuis Johannesburg. Le récit est de Thierry Kaori.
Les participants portent des masques représentant différents termes médicaux. Dans des cas, Néné, assistante sociale, explique.
C'est mon corps, pas de VIH, pas d'infection, rien, c'est mon globule blanc.
Le globule blanc entre dans le cercle et déploie ses muscles, mais lorsque le VIH intervient, il est lié aux mains et ne peut plus lutter contre les infections jusqu'à ce que les médicaments antirétroviraux viennent le libérer. Joseph, un participant, dit que les jeux lui ont beaucoup appris.
It looks like a play.
Cela ressemble à une pièce de théâtre, mais j'ai trouvé cela très sérieux parce que maintenant, je sais quelle est la différence entre un virus et son origine.
Le programme est géré par la communauté de réseautage sur le VIH et le sida en Afrique australe. Au début de l'année, le personnel de la communauté a suivi le cours Bridge of Hope, où il a appris à utiliser des jeux comme celui-ci pour enseigner aux gens l'importance de suivre les plans de traitement du VIH. Une étude publiée dans le Southern African Journal of HIV Medicine a montré que ces jeux sont plus efficaces que les visites à domicile pour maintenir les patients sous traitement. De nouveau, Dandeka Néné, assistante sociale.
Grâce à la participation et aux jeux, il est facile de se souvenir parce que c'est amusant et tout cela n'est pas formel. Et ils écoutent et s'assoient. Il s'agit donc d'une approche différente qui fonctionne réellement.
Le coordonnateur du site et formateur, Sefom, utilise les jeux pour montrer aux participants qu'avec des objectifs clairs et un soutien adéquat, tout le monde peut franchir le pas vers un avenir plus sain.
Si ce modèle peut être utilisé et soutenu dans le monde entier, je pense que les gens commenceront à mieux comprendre les choses et à se sentir plus à l'aise. Je pense qu'ils auront une vision différente de certaines choses, comme la prise d'un traitement, une vision différente des personnes qui vivent avec le VIH.
Peter Labouchère est le créateur des jeux de Bridge of Hope. Il explique que ces jeux s'adressent à différents styles d'apprentissage, ce qui permet aux élèves de mieux se souvenir de ce qu'ils apprennent.
Oui, il est très clair que les modalités d'apprentissage préférées diffèrent d'une personne à l'autre. Certains préfèrent le visuel, d'autres l'auditif, d'autres encore le kinesthésique. Donc si nous combinons les trois, nous touchons tout le monde.
Les Nations Unies ont pour objectif d'éradiquer le sida d'ici la fin de la décennie. Pour les organisateurs, des programmes comme celui-ci pourraient permettre à un plus grand nombre de personnes de rester sous un traitement qui pourrait leur sauver la vie.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum est consacré cette semaine aux funérailles nationales de Jimmy Carter, 39e président des États-Unis, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. L'occasion de revenir sur les multiples facettes de l'héritage que le prix Nobel de la paix laisse derrière lui, bien au-delà de son unique mandat à la Maison-Blanche. Son rôle de pacificateur, son engagement humanitaire, ses contributions à la santé mondiale et son impact sur la démocratie, sans oublier les crises qui ont ébranlé sa présidence. Que faut-il retenir de Jimmy Carter? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Le président élu Donald Trump n'a pas exclu de recourir à la coercition militaire ou économique pour prendre le contrôle du canal de Panama et du Groenland lors d'une conférence de presse tenue mardi en Floride. La chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, rapporte que ces remarques ont été faites quelques heures après que son fils a effectué un voyage surprise au Groenland. Davantage avec Deli Diko.
Le Groenland, territoire danois, semi-autonome, recouvert de glace, et le canal appartenant au Panama, qui relie la mer des Caraïbes à l'océan Pacifique, les États-Unis doivent les contrôler, les deux, a déclaré le président élu Donald Trump. Lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago mardi, il a été demandé à Donald Trump s'il pouvait garantir qu'il n'utiliserait pas la coercition économique et militaire pour y parvenir.
Non, je ne peux pas vous rassurer sur ces deux points, mais je peux vous dire que nous en avons besoin pour notre sécurité économique.
La semaine dernière, le Panama a célébré le 25e anniversaire de la cession du canal par les États-Unis. Écoutons le président du Panama, José Raúl Mulino.
Le canal restera toujours entre nos mains. Aujourd'hui, nous voyons le drapeau panaméen flotter librement comme s'il avait toujours été là.
Depuis 1941,
les États-Unis maintiennent une base militaire au Groenland qui fait partie du royaume du Danemark mais dispose d'une large autonomie. À nouveau, Donald Trump.
Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal, mais si c'est le cas, ils doivent y renoncer, parce que nous en avons besoin pour la sécurité nationale, pour le monde libre. Je parle de la protection du monde libre. Si vous regardez, et vous n'avez même pas besoin de jumelles, vous voyez que dehors, il y a des navires chinois et des navires russes partout. Nous ne laisserons pas cela se produire.
La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré à plusieurs reprises que le Groenland n'est pas à vendre. Elle l'a répété mardi alors que le fils du président élu, Donald Trump Jr., arrivait pour une visite non annoncée du territoire. Mette Frederiksen, première ministre danoise.
Je dirais très clairement que du point de vue du gouvernement danois, le Groenland est pour le peuple groenlandais.
Lors de la conférence de presse de mardi, il a également été demandé à M. Trump s'il utiliserait la force militaire pour annexer le Canada, qui selon lui devrait faire partie des États-Unis.
Non, la force économique. Parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. Vous vous débarrassez de cette ligne artificiellement tracée et vous regardez à quoi cela ressemble. Et ça sera aussi beaucoup mieux pour la sécurité nationale. N'oubliez pas qu'essentiellement, nous protégeons le Canada.
Le premier ministre canadien sortant, Justin Trudeau, a déclaré sur les réseaux sociaux « Il n'y a pas la moindre chance que le Canada fasse partie des États-Unis. »
Nous vivons dans une société où beaucoup de ces décisions ne sont pas prises de manière unilatérale. Et même si l'administration Trump voulait être expansionniste et envahir d'autres pays, à quel point cela peut-il être réaliste en termes de force et de représailles?
Donald Trump a réitéré sa menace d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains si les deux pays ne renforcent pas la sécurité à leurs frontières avec les États-Unis. Il a également déclaré qu'il renommerait le golfe du Mexique « Golfe d'Amérique ».
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.